Bon, eh bien, nous allons passer à la discussion. Je l'introduis de quelques mots. Finalement, cette année se conclut surtout par des questions. Et c'est une façon de conclure pour les choses qui sont appelées à continuer, comme c'est le cas pour nos séminaires. Hein. Puisque dans les choses appelées à continuer, chaque question résolue en amène d'autres. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans l'enseignement de Lacan d'un bout à l'autre. La mort est le seul point de capiton définitif, le plus réel qui soit. C'est pourquoi Lacan, c'est ce que Lacan évoquait à propos de Freud, de son dernier texte sur la Spaltung, disant « la mort y mit le mot fin ». Alors aujourd'hui, on n'a pas mis le mot fin, heureusement, puisque notre séminaire débouche sur les prochains. Ouf ! Alors je disais, il y a beaucoup de questions, il y a eu quelques affirmations, mais je retiens plutôt les questions. Une question sur l'invention du savoir, qui au fond pourrait se rapprocher de ce que disait Claude, qui lui ne posait pas la question, mais elle était latente. Est-ce que l'inconscience est du savoir contingent ou nécessaire, ou les deux ? Hein ? Et puis il y avait une question sur le rapport avec la passe. Ah, alors là, grande question qu'on n'a pas touchée dans l'année, hein, d'une certaine façon. Mais après tout, oui, on peut introduire la question, est-ce que la passe s'est fait pour découvrir le savoir inconscient de l'autre ? C'est une question. Et puis, oui, alors ça fait combien de questions ? Il y a déjà celle-ci, ça en fait quatre, je crois. L'invention du savoir, le rapport à la passe. Ah oui, puis peut-on savoir quelque chose du savoir inconscient du partenaire ? Ça, c'est une question absolument brûlante. On va en parler l'an prochain, jusqu'à plus soif, c'est sûr. Donc, voilà, donc toutes ces questions. Alors, bien sûr, je pourrais dire un mot sur chacune, mais je vais d'abord vous passer la parole. Parce que, pour ne pas embouteiller la discussion, hein, je ne m'empêcherai pas de dire quelque chose, certainement. C'est pas mon habitude. Alors, voyons, qui voudrait déjà intervenir sur l'une ou l'autre de ces questions ?
D'où vient cette histoire d'invention du savoir chez Lacan ? Est-ce que c'est dans le séminaire 20 ? Il ne m'a pas semblé. Il parle beaucoup d'invention du savoir.
L'invention. Vous savez, la thèse de Lacan, c'est pas qu'on invente le savoir inconscient. Hein. Ça paraît absolument certain. Le savoir inconscient, il est là. On en découvre des petits bouts, pas plus en plus. Pas tout, bon. Mais, donc son idée, c'est que ce que tu as cité, Marc, il ne faut pas inventer. Donc l'invention, pour lui, c'est du côté, en effet, de l'imaginaire, tu l'as bien souligné. Il faut pister le réel. Le réel, ce qu'il y a de réel dans notre expérience, c'est pas n'importe quel réel, et c'est forcément en partie un réel qui est le réel du langage. C'est là qu'on retrouve la question du nombre. Le réel, c'est le nombre. Bon, le problème, c'est que problème de cette thèse, hein, il faut pas inventer et chercher le réel, c'est que le réel, il se tait, et que pour aborder le réel, on invente aussi. Et là, ça se voit très bien dans le seul endroit où vraiment on invente, c'est les mathématiques. Même en physique, on invente certaines choses, mais le savoir de la physique n'est pas inventé. Le savoir des mathématiques est inventé. Les aleph 0 de Cantor, 0 et suivant de Cantor, il n'y avait pas trace nulle part avant de cela, ni dans le monde physique, ni dans, sur le tableau noir, ni dans les papiers. C'est de l'invention. Il n'y avait rien et il y a désormais ces écritures, etc. Donc, en ce sens, si vous voulez, le seul modèle de la vraie invention de savoir, c'est la mathématique. C'est les mathématiques. Ça ne ressemble pas beaucoup à l'analyse, quand même. Bon, alors, bien sûr, après, il y a l'invention du savoir. Il y a le savoir qui correspond aux pensées, la psychanalyse. Lacan a inventé du savoir théorique. Freud a inventé du savoir théorique. On peut dire qu'il l'a inventé, là aussi. Ce n'était pas là avant. Il n'a trouvé ça nulle part. Et tu as cité une phrase que tu as interrompue avant un moment crucial. Ces êtres dont se fait la lettre, Freud et Lacan, leur savoir, l'autre n'est pas supposé en savoir quelque chose. Autrement dit, le savoir inventé, c'est un savoir qui ne serait pas pris dans l'autre. Hein, pas supposé et pas déjà là. Dans la psychanalyse, on peut examiner s'il y en a beaucoup d'occurrences, mais je ne crois pas, il ne faut pas se vanter là. Alors, il n'est pas exclu pour autant que l'expérience analytique amène l'analysant, on pourrait développer ça, qui amène l'analysant à trouver pour lui-même de nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de supporter son symptôme, les autres et tout ça. Mais ça, ce n'est pas de l'invention de savoir, c'est de l'invention de savoir-faire. Enfin, savoir-faire. Hein, ce que je dirais sur l'invention de savoir. Bon, alors. Il y a un micro. Vous passez le micro, ceux qui sont devant, vous serez gentils. Il est allumé ?
Non.
C'est dessous, non ?
Oui, je me posais la question de savoir si l'invention de savoir n'était pas inhérente à la séparation, je veux dire à l'opération de séparation.
Quel est le savoir qui s'invente dans la séparation ?
Bien, c'est justement quelque chose qui est difficilement cernable, mais qui en tout cas n'est plus justement de l'autre, même s'il se déduit ou il se fait à partir de l'autre, il est dans un intervalle. Enfin, je sais pas, je l'imaginais comme ça, sans doute à tort, mais je pense que le sujet naît de la séparation et donc.
Vous avez raison, il faut lier l'invention à la séparation. Il ne peut pas y avoir d'invention chez un sujet qui n'est pas séparé de l'autre. Mais la séparation analytique ne se fait pas par invention de savoir.
Non, c'est pas.
La séparation analytique, elle se fait. Bon, il y aurait plusieurs façons de le dire, mais elle se fait par la perception de ce qu'est son inertie, son noyau inamovible symptomatique, qui, lui, ne vient pas de l'autre, fixé de façon contingente. Hein, et ça sépare de l'autre. Mais à soi tout seul, ça ne pousse pas du tout à inventer. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on constate quand même. Écoutez, regardez le monde analytique, on ne peut pas dire qu'il soit travaillé par la fibre inventive. Et on peut supposer qu'il y a quand même dans le monde analytique, si ce n'est tous, pas mal d'analysés, de gens analysés, donc qui ont opéré une séparation de l'autre. Et on ne peut pas dire que le travail de l'invention les empêche de dormir. C'est même là-dessus que Lacan s'est battu pour les réveiller, pour obtenir qu'au moins ils pensent un peu. Je vous suis pour dire qu'il faut être séparé pour inventer, mais que ça suffit vraiment pas.
Oui, ce que je veux dire, ce que je...
Peut-être qu'en forçant le terme d'invention, bon, quand tu parles du noyau symptomatique contingent, ça, on peut dire que c'est le par-lettre qui l'invente, mais c'est pas l'invention du sujet.
Voilà.
C'est une invention sans sujet, comme Lacan parle de savoir sans sujet. Mais c'est vraiment forcer les termes d'invention, il me semble.
Oui, ce n'est pas une invention.
Ça n'est pas une invention, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de résonance, c'est pour ça que j'ai parlé de ça, c'est quand même qu'il y a une espèce de résonance plutôt sympathique, favorable au terme d'invention. Le côté, grâce à l'analyse, dès que vous êtes tous des inventeurs, qui...
Quand une jouissance inattendue, accidentelle, vous saisit, vous allez appeler ça une invention ? Parce que c'est ça, le noyau du symptôme, c'est ça. C'est qu'un élément quelconque, tout à coup, se leste de jouissance, et vous en êtes saisi, vous en êtes déterminé, quand on emploie plusieurs fois ce terme, déterminé. Le mot invention, quand même, on est obligé de suivre les fils sémantiques des termes. Hein, on peut toujours détourner les termes, bien sûr. Je suis pas contre, hein, mais le fil sémantique de invention, ça désigne un inventeur actif. Hein, une invention, ça suppose un inventeur actif. Alors, si après on se met à parler d'invention pour des choses qui ont surgi dans la contingence, bon, pourquoi pas, il suffira de mettre bien la définition, de dire c'est une définition sans inventeur, l'inventeur est l'effet de l'invention, bon, pourquoi pas. Alors il y a quelqu'un qui demande la parole au fond, vous lui passez la parole, le micro, pardon.
Oui, moi, cette histoire d'invention du savoir me fait penser à l'histoire dans la, enfin l'histoire de la voix dans l'hallucination. Je m'explique. Lacan insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire le fait que le sujet appelle la voix, c'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte commandée par le sujet. Et d'ailleurs, on vérifie ça très souvent, c'est-à-dire que d'ailleurs les psychiatres, classiquement, parlaient de l'attitude d'écoute. Hein, c'est-à-dire qu'en somme, on était à l'affût d'eux. Et moi, j'ai le sentiment que cette invention de savoir, disons, c'est une sorte d'image, c'est pas exactement la même chose, mais enfin, ça donne une idée de ce pourquoi il parle d'invention de savoir. D'autre part, il y a...
Il n'en parle pas pour le savoir inconscient, hein, à aucun moment. Ma connaissance, hein. On peut toujours trouver une phrase chez Lacan qui dit le contraire de ce qu'on croit.
Mais oui, mais quand à cette époque-là, quand il parle de savoir, c'est vrai que c'est un savoir qui peut avoir plusieurs sortes. Moi, évidemment, le savoir est inconscient dans son principe, en tout cas à ce moment-là. Enfin,
il parle même pas de savoir à cette époque. L'inconscient savoir, c'est pas au moment de la question préliminaire. Hein.
Non, je parle de...
Non, mais ce que tu veux dire, ce que tu dis là est très important. Dans l'hallucination, Lacan a une expression, il dit le sujet est immanent.
Oui.
À son hallucination.
C'est ça.
Donc il...
Donc, non, mais je prenais ça comme une sorte d'homologie,
oui,
par rapport à ce qu'il dit de l'invention du savoir, donc dans encore. Oui. Là, il s'agit du savoir inconscient. Non, ta référence était dans quoi ?
Il n'y a pas une phrase sur l'invention de savoir.
Qui suit.
Dans encore, on ne parle pas d'invention de savoir.
C'est dans les soirées que l'expression est.
Ah.
C'est mais Bernard elle... Nominé qui avait fait un exposé sous le titre l'invention de savoir.
C'est-à-dire qu'on imagine toujours le savoir inconscient. Parce que dans la formule du savoir insu ou du savoir, il y a toujours l'idée donc que c'est un savoir qui serait déjà là. Et à mon sens, c'est là où je trouvais que la question de Marc me sollicitait, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a une dimension du savoir en tant qu'il est, on va dire, en train de se fabriquer. C'est-à-dire qu'il n'est pas prêt, il est lui aussi, il y a une dimension immanente, comme tu dis, voilà, de ce savoir, et on peut dire qu'il est produit, dans le sens qu'il y a une invention qui serait inventée. Parce que c'est pas l'inconscient qui est inventé, évidemment. C'est la façon dont le sujet s'empare de quelque chose et en fait. On a les premiers éléments de ça, par exemple, avec Gide.
Mais dans le séminaire, ce qui se rapproche le plus de ce que tu dis, dans le séminaire, puisqu'on est sur un commentaire du séminaire, c'est parce que ce que tu évoques là, c'est que, évidemment, le savoir de l'inconscient, il est un su, et d'ailleurs, Lacan dit, il n'est même pas fait pour être su, mais dans une analyse, on tâche de le déchiffrer. Donc, on tâche bien d'en savoir quelque chose. Seulement, déchiffrer, c'est pas inventer. C'est tellement pas inventé que Lacan appelle ça élucubré. Hein, ce qu'il appelle l'inconscient élucubré, c'est l'inconscient déchiffré. Il le dit explicitement. Et donc, dire élucubré, bon, il y a peut-être un peu d'invention dans l'élucubration, une petite nuance d'invention, mais ça rabat ce qu'il y a d'inventif sur l'imaginaire, en fait. Hein. Ce que Marc a fait valoir. Alors, il y a Radu qui voulait poser une question. Peut-être on va laisser aussi la question de l'invention, parce qu'il y a quand même d'autres questions.
Juste un mot. L'inventeur, en général, c'est étymologiquement, c'est celui qui soulève, qui a trouvé ce truc dans le trésor dans son jardin. Il a rien fabriqué.
Oui.
C'est pas le concours Lépine, l'invention.
Oui, ça dépend comment tu définis. Alors.
Oui, c'est une remarque, question, enfin, c'est savoir inconscient, mais un savoir sur l'inconscient, donc peut-être du côté de l'élucubration. Oui. Freud utilisait le terme construction.
Oui, oui.
Lacan l'a utilisé un certain temps, ensuite il l'a laissé un peu tomber, il a utilisé élaboration, enfin opération, et puis je me demande si c'est pas à mettre... En série avec cette affaire de nomination qui chez Lacan vient remplacer l'affaire de la métaphore où il y aurait quelque chose qui est produit et que dans la nomination peut-être, enfin c'est une question si on peut rapprocher ces...
Alors moi la question sur laquelle j'en reste, c'est pourquoi on tient à ce terme d'invention à ce point pour désigner toutes sortes de choses qui sont produites, qui sont élaborées, qui sont effectivement... Mais pourquoi on tient à appeler ça invention ? Ça me laisse un petit peu surprise, mais bon, chacun...
C'est une promesse. Hein ?
C'est plein de promesses, mais il ne faut pas faire des fausses promesses. Oui. Il faut commencer par ne pas en faire de fausses pour être sûr qu'il y en a quelques-unes de vraies. Vous voulez intervenir sur l'invention ?
Ouais.
Si c'est ça, je vous passe la parole, sinon on passe à autre chose. Oui.
Non, je voulais dire autre chose, mais du coup, j'ai un tout petit commentaire sur l'invention. Non, je pensais qu'il y avait une autre acception du terme qui était « tu inventes ».
Ah oui, tu inventes pour dire tu délires.
Voilà, et peut-être que quelquefois on fait ça aussi dans nos soirées, et c'est pas exclu qu'on invente un peu aussi. Voilà, mais j'avais une question sur un autre sujet.
D'accord,
allez-y. Est-ce qu'on peut changer complètement de sujet ?
Ah ben oui, je trouve qu'on va pas parler toute la soirée de l'invention.
Il n'existe pas.
Oui.
Ah, il y a encore quelque chose.
Continuez,
Agnès, vous avez le... Je reprends.
Oui, juste sur l'invention, en fait, c'est une acception ancienne du terme qui peut-être explique qu'on y recourt sans le savoir. C'est que c'est, en fait, le sens que ça avait, c'était de découverte.
Mais c'est ce que vient de dire.
Voilà. On disait l'invention d'un trésor, ça voulait dire avoir trouvé quelque chose de caché. Et du coup, c'est plus du tout le concours Lépine. Effectivement, je rejoins complètement ce que vous disiez.
D'accord.
donc Christophe Colomb a inventé l'Amérique. C'était ça, hein? On aurait dit ça à une époque. Oui, d'accord. Alors, allez-y, Agnès.
Donc, je vais du coup poser une question à partir de l'intervention de Marc, qui nous apprend, en tout cas moi, très précisément le thème de l'année prochaine. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà annoncé ou si je suis la seule à le découvrir ce soir.
Non, on ne l'avait pas annoncé. Ah, c'est voilà. Marc qui est très indiscret.
Ah, bon. Voilà. Et du coup, je ne sais pas si on peut déjà aborder. En tout cas, j'ai.
Non, on ne commence pas à l'aborder.
Voilà, on ne peut pas commencer de l'aborder, donc je n'ai pas de questions.
D'accord. Mais vous serez là l'an prochain. Elle le savait forcément. D'accord. Ok, ah oui, c'est le cafouillage, là, oui. Alors. Je serai peut-être pour la question qu'est-ce qu'on peut savoir du savoir inconscient du partenaire, première question, et qu'est-ce qu'on peut savoir du savoir inconscient du passant. On ne va pas rapprocher les deux questions peut-être, hein, c'est pas tout à fait pareil. Bon, et puis surtout pour le partenaire on a une thèse de Lacan, pour le passant on n'en a pas du tout. Parce que je crois que Lacan n'a jamais pensé que la passe était faite pour savoir quelque chose du savoir du passant, du savoir inconscient du passant. Le seul qui voudrait savoir quelque chose de l'inconscient du passant, c'est le passant lui-même. Et en principe, quand il a fini son analyse, il sait un peu. C'est un peu quelque chose. C'est un peu quelque chose. Mais Je doute que ce soit l'objet de la passe, personnellement. Alors, je voudrais quand même souligner dans ton exposé, Jean-Pierre, comment repérer un savoir-faire nouveau avec la langue. Autrement dit, tu continues un savoir-faire avec le réel de l'inconscient qui signerait ce virage à l'analyste. Mais d'où vient l'idée qu'il y a, en fin d'analyse, un savoir-faire nouveau avec la langue? D'où vient cette idée? Je ne la vois nulle part. Enfin, je ne la vois nulle part dans mon expérience, première chose. Mais je la vois nulle part dans le texte de Lacan. L'analyse apporte beaucoup de choses. Mais un savoir-faire nouveau avec la langue. Il y a la phrase que tu cites, l'inconscient est un savoir-faire avec la langue. Bon, cette phrase, on en a parlé, on l'a expliquée, en effet. D'ailleurs, tu vois que cette phrase suppose que Lacan ne confond pas la langue et l'inconscient, déjà. Toutes les phrases citées indiquent qu'il ne confond pas la langue et l'inconscient. Mais celle-ci dit un savoir-faire avec la langue. Qu'est-ce qu'il sait faire avec la langue, l'inconscient? L'inconscient, il sait extraire de la langue des signifiants à jouir. Il sait produire la coalescence de signifiants de la langue qui, dans la langue, ne sont pas jouis. La langue n'est pas un être vivant. L'inconscient extrait de la langue des signifiants, ces dix signifiants, soit les signifiants signes qu'ont des chiffres, soit la lettre du symptôme. C'est deux occurrences différentes. C'est ça le savoir-faire de l'inconscient avec la langue. Alors, je ne vois pas comment l'analyse pourrait changer le savoir-faire avec la langue. On ne change pas l'inconscient du patient. On essaye d'en savoir quelque chose, on essaye d'en mesurer les conséquences. Alors ça, oui, mesurer les conséquences pour le pauvre parlant qui en subit une jouissance châtrée, pas de rapport sexuel, pas de dialogue, partenaire incertain. Bon, on peut décliner toutes les conséquences qui sont peu agréables et qui justifient qu'on parle d'horreur de savoir. n'a pas, comme dit Lacan, les analystes sont comme les catholiques, ils ont horreur de ce qui leur est révélé. Bon. Je ne crois pas qu'on puisse penser qu'il y a un nouveau savoir-faire avec la langue à la fin de l'analyse. Là, il faudra me le démontrer. Il faudra me le démontrer pour que j'y croie. Un nouveau savoir-faire avec le symptôme, oui. Un nouveau savoir-faire avec le fantasme, peut-être. Avec l'autre, assurément. Mais avec le savoir inconscient, non. C'était un rêve. Moi, quand j'ai commencé une analyse, j'espérais ne plus avoir d'inconscient à la fin. Et je me suis aperçue que c'était pas, que j'avais pas pris la bonne voie pour y arriver. Bon, ben, c'est... Voilà, bon. Alors, voilà. Alors après, il y aurait des choses à discuter, sans doute. Puisque... Qu'est-ce que ta question ? Qu'est-ce qu'on peut savoir du savoir inconscient du passant ? Est-ce qu'on attend de savoir quelque chose sur son savoir inconscient au passant ? Je pensais qu'on attendait de savoir s'il avait fait une analyse. Hein ? S'il avait fait une analyse. Donc, il peut nous transmettre des bribes qu'il a déchiffrées. Mais ça ne va pas servir beaucoup au cartel. En fait, je vais vous confier quelque chose, Jean-Pierre. Quand je lisais ton texte, je me suis dit, si j'étais à une autre époque de ma vie, il pourrait être en question de me présenter à la PAS. Après avoir lu ça, je ne suis pas sûre que j'irai. Franchement. Parce que... Ben oui, parce que... En même temps, je trouve que c'est bien. Hein. Je trouve bien. Non, mais attendez. Je trouve bien que tu aies manifesté explicitement les perplexités des cartels. Hein. Parce que ça devient indispensable. Indispensable de le faire. Parce que. Alors je m'explique, c'est un thème qui commence à me chauffer beaucoup, c'est-à-dire à m'occuper beaucoup, c'est ça que je veux dire. C'est ton exposé qui me donne le prétexte, mais voilà, quand tu dis, et ça c'est d'une honnêteté remarquable, donc profitons-en, que par exemple un cartel répond quoi au passant non nommé ? Il lui répond qu'il le remercie, pour le témoignage précis du parcours analytique, premier cas. Deuxième cas, qu'il a apprécié l'authenticité du témoignage de passe. Troisième cas, qu'il est sûr qu'il y a de l'analyse, qu'on a bien vu les effets de son analyse. Alors je demande, voilà. Moi je dis, tous les trois auraient dû être nommés si vous savez ce que vous dites. Si vous savez ce que vous dites. Parce que quand on a le témoignage d'un parcours analytique, le virage de passe, que le cartel n'a pas vu, dit-il, il est impliqué. On ne peut pas avoir un parcours analytique accompli sans qu'il y ait eu le virage de passe. Premier point. Et deuxième point, si vous dites ça, on a vu le parcours, on a vu l'analyse, on a vu les effets, c'est que le passant, il a réussi à historiser son analyse. Et ça, c'est l'objectif que Lacan donne à la passe en 76. C'est plus chercher le virage de passe, c'est chercher l'historisation de l'analyse. Alors je dis, il y avait toutes les raisons de nommer ces trois personnes que je ne connais pas du tout, Dieu merci, sinon je ne pourrais pas dire ce que je dis, évidemment. Ça pose question, et d'autant plus que, comme tu l'as très très bien dit, il y a quand même un problème. 12 ans, 10 ans de passe, 85 passants, 12 nominations. Ça ne va pas. C'est pas ta faute, je te regarde, mais tu n'y es pour rien. J'y étais aussi. Bon, au contraire, tu mets la chose sur le tapis, c'est excellent. Mais enfin, il faut quand même se réveiller. Et on ne peut pas continuer à dire aux passants, ah, vous avez fait une très bonne analyse, mais on ne vous nomme pas. Vous avez bien témoigné. Bon, mais on ne vous nomme pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vu le petit quelque chose qu'on aurait appelé le virage de passe. Que jamais personne n'a vu, d'ailleurs. Même chez ceux qu'on nomme. Alors, écoutez, non, là, il faut... Non, mais je vous fais rire, parce qu'il faut prendre les choses légèrement. Il faut prendre les choses légèrement, mais elles sont très sérieuses. Elles sont très sérieuses. Notre école est en jeu, là-dedans. Notre école est en jeu. Si on ne parvient pas à rectifier quelque chose du point de vue des cartels, eh ben, je ne sais pas ce qui va se passer. En même temps, je comprends parce que j'ai fait l'expérience des cartels à l'ECF, je l'ai fait aussi dans notre école, et j'ai constaté dans deux contextes d'écoles différentes la même chose. Savoir que quelqu'un qui arrive dans les cartels de la passe pour la première fois, après quand on vieillit et qu'on y est plusieurs fois, on commence à... On a appris quelque chose de la première expérience, donc on n'a plus la même position. Mais quand on arrive la première fois, cartel de la passe, on est plein de curiosité et d'intérêt, mais on a en tête tous les textes, tout ce qui se dit, tout ce qui circule, hein, avec toutes ces expressions sur le fantasme, sur ça, et on arrive donc avec en tête une grande expectative. Et puis on entend un témoignage, c'est un choc. Les témoignages sont un choc quand on arrive pour la première fois parce que ben, ça ne ressemble pas au texte. Il y a peut-être ce qu'il y a dans les textes, mais c'est dit autrement, c'est pris autrement, c'est un autre récit. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a des cartels qui durent 2 ans ? Quand ils étaient éphémères, c'était très différent. Ils durent 2 ans. Donc, les premiers témoignages écoutés, pas nommé, surprise du cartel. Et c'est à la fin des 2 ans que les cartels se réveillent, se disent, il faut quand même nommer quelqu'un. Non, mais je caricature, mais attention, c'est pas de la caricature, c'est un peu comme ça. Et donc, je me dis, ça va pas non plus, ça. Ça pourrait valoir de ne prononcer les nominations toutes qu'à la fin des 2 ans. Aucune au début, parce que sinon, ça va pas. Donc là, il y a tout un travail à faire dans le CIG, dans les cartels de la passe, pour remettre un petit peu de quoi ? Pas de bon sens, mais de réalisme dans cette question. On cherche pas la pierre philosophale dans le témoignage des passants. Et franchement... Oui, non, je m'arrête parce que... Bon, j'aimerais... Oui, allez-y, donc que d'autres parlent sur ce thème. Jean-Pierre, oui.
D'abord, la question que je me pose, c'est effectivement de savoir si au-delà de la nomination, il y a un intérêt épistémique à la passe. Évidemment que pour Lacan, ce n'était pas le. Je l'ai dit dans mon texte, son but n'était pas effectivement faire de la passe un dépôt épistémique. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un intérêt épistémique ? Hein, et ce que j'ai essayé d'articuler, c'est au vu effectivement de la rareté des nominations, si ça perdure et si on aime tant en faire partie, c'est qu'on doit y trouver un intérêt épistémique. Qui est lié à quoi ? Qui est lié à quoi ? Alors, là où je suis peut-être, là où je discuterai, c'est quand vous dites qu'à partir du moment où on relève qu'il y a eu analyse, on doit nommer. Mais après tout, une analyse, c'est toute la discussion qu'on a eue sur qu'est-ce que la fin de l'analyse, qu'est-ce que le virage à l'analyse, qu'est-ce qu'il dans ce cas-là, effectivement, dès que quelqu'un est en analyse, on nomme sans se préoccuper de. Je crois que c'est Lacan qui parlait de relever la race des congénères, hein, quelque chose comme ça. Donc, il cherchait bien autre chose. Alors c'est une vraie difficulté qu'on n'a peut-être pas résolue. Ce que j'essaye de dire, c'est que dans le fond, tant qu'on est dans les témoignages au niveau de l'élaboration dans le langage, on a des choses très très intéressantes qui nous intéressent, et que peut-être la question de ce qui nous fait tilt, ce qui m'avait frappé, moi, c'est que parce que la nomination, ça n'avait pas du tout été à la fin de notre carte encore, hein, mais ce qui m'a fait tilt, c'est que dans le fond, on a été unanime d'emblée. Je veux dire, dans la nomination, c'est assez imposé à nous comme oui, il y a quelque chose qui s'est imposé parce qu'il y a quelque chose qui est passé au-delà de l'élucubration du langage, etc., sans doute par le style qu'elle avait eu, etc., par le rêve du rat qui s'était énoncé. Voilà, c'est ce que j'essaye de dégager un peu en différence. Qu'est-ce qui est passé de la langue au-delà du langage ?
Témoignage au-delà du langage. Okay. Il suffit pas effectivement qu'il y ait de l'analyse, mais vous avez dit il y a analyse. Si on dit il y a de l'analyse, peut y avoir de l'analyse au bout de 6 mois d'entrée en analyse, bien sûr, entendons-nous. Mais quand on dit on a vu les effets de l'analyse, on a vu le parcours, ça voudrait dire, vous voyez le nombre d'analystes qui exercent actuellement sur la place en France, à Paris, dans notre école. Et ça voudrait dire que sur cette masse, il y a quoi ? Un analyste ? Deux ?
C'est un vrai problème.
Il faut questionner ça. Il faut questionner ça. On s'apprête à avoir un débat d'école. Il faudra, c'est un début, j'espère, de débat. Et il faudra avoir un débat approfondi sur ces questions. Il y avait même eu une fois, c'était pas chez nous, hein, mais c'était avant. Je crois que c'est des gens qui sont avec nous maintenant, mais enfin, peu importe. Qui avait expliqué comment ils procédaient pour écouter les témoignages de passe. Alors, ils avaient recensé toutes les expressions qu'il y a dans la théorie sur les changements que produit une analyse. Les effets thérapeutiques sur le symptôme, la traversée du fantasme, la séparation d'avec l'autre. Enfin, on a comme ça toute une série d'expressions qui nous permettent de dire ce qu'est le progrès d'une analyse. Hein. Je ne mets aucune nuance péjorative sur ces expressions. Elles sont absolument nécessaires, utiles, mais le cartel avait dit, ben voilà, on a mis sur le papier tout ça, et on demande au témoignage, alors est-ce que ça y est ? Est-ce que ça y est ? On coche, et à la fin, si on a toutes les croix, et qu'on n'y a jamais toutes les croix, évidemment, parce que chaque analyse est singulière. Et donc ça ne peut pas marcher comme ça non plus. Et c'est pareil pour toutes les expressions de Lacan. L'application biunivoque des expressions de Lacan au matériel de témoignage, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, donc nous avons là un problème, et je remercie Jean-Pierre d'avoir trouvé l'occasion de cette conclusion pour la poser. Maintenant, il y a encore d'autres choses à discuter, peut-être. Alors, Martine avait une hypothèse positive, hein, qui était très positive, votre hypothèse, qui était quoi? Qui était... D'abord, qu'au fond, on avait fait un travail d'école. Ça, c'était agréable à entendre en fin d'année. Et puis que dans le titre lui-même, il y avait un savoir.
Il y avait le style de l'école.
Il y avait le style de l'école. Alors, ben voilà.
On c'est peut... sur la question du on.
Le on.
Je me suis rendu compte que Lacan l'utilisait beaucoup. Oui, je me suis rendu compte que Lacan l'utilisait beaucoup et pas pour rien, quoi, puisqu'il prend le on et qu'il explique pourquoi.
Mais c'est très utilisé en français.
Oui, alors.
Mais ça vaut encore le stage du collège clinique. Qu'appelle-t-on
oui.
psychose ?
Oui, oui. Il emploie même l'expression le on de l'omnitude qu'il fabrique sur le modèle de multitude. Et le on de l'omnitude, ça désigne un particulier en tant qu'il fait partie d'un ensemble. Pas un singulier, un particulier, un entre autres d'un ensemble. C'est ça le on de l'omnitude. Alors nous, quand on dit que peut-on savoir du savoir inconscient, c'est le on des gens qui ont affaire à l'analyse, soit comme analysant, soit comme analyste, ou peut-être comme lecteur de Lacan aussi, enfin des gens qui ont affaire à l'analyse. Oui. Oui, puis il y a le « on le sait soi », enfin, vous l'avez recensé, c'est vrai que c'est une expression, tu voulais dire quelque chose, non?
Non, pas, non, pas, pas plus, non,
non. Mais Agnès, non, mais Agnès. Du coup, puisque j'ai le micro, est-ce que j'ai bien compris la fin de votre exposé, Martine, où vous proposez de passer du « on » au « nous » dans l'école, c'est ça?
C'est au nouage.
C'est Lacan qui passe.
Oui, ça y est. Non, c'est pas que je propose, c'est oui, c'est qu'en reprenant ces deux phrases de Lacan qui ont un an d'intervalle, juste un an d'intervalle, hein, j'ai pensé que je pouvais tirer la conclusion que le nous pouvait représenter l'école. Alors évidemment, je fais de l'école un substantif, comme si c'était, mais c'est quand même un ensemble d'analysants, analysés, qui auraient, dont un certain nombre, qui pourraient être nous, mais c'est pas nous, il n'est pas dénombrable, c'est pas un tel, un tel, un tel. C'est puisque j'ai fait de l'école un annonciateur, finalement, hein, avec qui a un style, mais parce que je le crois vraiment, sinon je ne serais pas là. Hein. Donc effectivement, le nous, ce serait ceux qui regarderaient, disons, l'horreur de savoir en face, quoi. Autant qu'on peut la regarder en face, puisque c'est comme le soleil. Qu'on ne peut pas. On ne peut pas.
En fait, en français, le on et le nous, c'est très près. Vous vous souvenez pas, à l'école primaire, vous n'avez pas appris ça. Les élèves, ils commencent une phrase. Nous sommes partis en promenade à 10 heures et on est arrivés le soir à 4 heures. Et la maîtresse dit non, on ne met pas nous et on dans la même phrase. Mais ils passent facilement, les enfants, parce que dans l'usage... c'est deux collectifs au fond. Il y a un on du collectif, un nous du collectif. Marc,
oui, c'était. Moi, je voulais remercier Martine. J'ai trouvé très, très, très élégante et effectivement positive, optimiste cette lecture du titre. Au fond, si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est qu'à notre insu, dans le choix de ce titre, se manifeste, se matérialise une option d'école, celle du on. N'est-ce pas le on qui est dans que Lacan, parce que je l'ai moi-même à l'occasion commenté, le on qui est dans le qu'on dise, le on qui est dans le on le sait soi, Et au fond, ta thèse, c'est qu'il y a, bon, tu reprends celle de Lacan, on pourrait dire, il y a de long. Il y a de l'un d'un côté pour Lacan, mais pour l'école, il y a de long. Il y a de long de l'école. Et moi, je trouvais ça assez joli parce que ça résonnait avec des réflexions personnelles actuellement. Je me demandais ce que devenait aujourd'hui le projet. Je ne sais pas comment le qualifier, mais ça serait une qualification un peu dépréciative. Le projet de Lacan de 6-17, des textes non signés, qui a quand même été un météore aussi. Et il reste quelque chose de ce projet, dans ce que tu as dit, à travers ce « on ». Le « on » qui n'empêche pas la singularité de chacun, mais qui est quand même une orientation.
Silicette a été repris comme titre, hein, tu sais. Le titre n'a pas... Oh, bien sûr que si, signé.
Oui, mais le projet, c'était non signé.
Le titre a été repris.
Oui, c'est vrai, tout le monde ne sait pas qu'à l'époque, le rêve de Lacan, c'était une revue de psychanalyse non signée.
Sauf de Lacan. Et ça s'appelait Silicette. Tu peux savoir. Là, c'était pas on peut savoir. C'était tu peux savoir, adressé à ce qu'il appelait le bachelor, le célibataire au sens anglais, c'est-à-dire l'homme pas encore marié. Le célibataire, c'est ça qui spécifie le bachelor, effectivement. Bien sûr, c'est l'âge où on étudie. Voilà. Oui. Mais...
Les choses ne sont pas verrouillées.
Ceux qui ne sont pas encore...
C'est pas encore les
qui
liens...
n'ont pas encore...
Les liens indissolubles.
Mais ce sens, je ne sais pas, vous savez mieux.
Oui.
Tu peux savoir de Silicette, il y avait une suite, c'est tu peux savoir ce qu'en pense l'école freudienne de Paris.
Oui.
C'est-à-dire, c'était dans le titre, il y avait.
L'école.
Ouais. Donc, il y avait déjà quelque chose de l'orientation de l'école dans le tu peux savoir, dans le Silicette.
Oui, sauf que Lacan pouvait dire à ce moment-là, il y a une école. Parce que j'y enseigne quelque chose. Alors, actuellement, on a toujours son enseignement, certes. Et on vit, notre école vit de cet enseignement, d'une certaine façon. Mais on ne peut pas dire qu'il y a notre école parce que Lacan y enseigne quelque chose. Il a enseigné et nous avons le dépôt de son enseignement, ce qui s'est déposé dans les textes, et nous faisons ce que nous pouvons avec. C'est pas pareil quand même.
Dans Au pire, Lacan dit ne s'enseigne que de l'un.
Hein?
Dans Au pire, Lacan dit ne s'enseigne que de l'un.
Bah oui. Quoi d'autre?
Bah oui, parce qu'on parle d'enseigner, d'enseignant, de ce que c'est un étudiant, mais ça a quand même élève le débat. Enfin, je me dis, c'est super.
Développe.
Je ne sais pas si je serais capable. C'était plutôt même une interrogation.
Est-ce que je peux dire un mot?
Bien sûr.
Est-ce que je peux plaider un petit peu en défense pour Jean-Pierre?
Vas-y.
Méfie-toi des témoignages. J'ai quand même été sensible. Enfin, j'ai bien aimé plutôt la fin de son texte quand il parle du ton du témoignage. Sans pathos, sur le ton léger de la nouvelle. Et c'est vrai que quand même, ça c'est l'effet d'affect de ce qui se transmet, qui est présent aussi, qui est filtré par les passeurs, qui sont plus ou moins sensibles, effectivement, à cet effet d'affect du passant, qu'ils traduisent plus ou moins, ils le transforment, mais il en reste quelque chose. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est sensible dans les témoignages de passe. Il n'y a pas seulement des élucubrations de savoir, ou des constructions théorico-historiques.
Oui.
Et ça...
Moi, je serais très inquiète que ce soit avec ça qu'on nomme les passeurs.
Ça n'est pas plus avec ça
qu'avec
les élucubrations théoriques.
Pourquoi je serais très inquiète? Mais j'ai parlé du style. Oui. Le style, c'est la singularité. Mais vous savez, les styles peuvent se détester entre eux.
Mais si tu m'avais dit continuer à parler, j'aurais posé la question.
Donc, on est au niveau du goût. On est au niveau du goût. On n'est pas au niveau de l'évaluation, de l'analyse. Avec le.
Oui,
avec
je le sais ton. Bien. Je sais bien. C'est que si tu unilatéralises les choses, hein, d'un côté l'élucubration de savoir, ça ne va pas. Si tu unilatéralises les choses, oui, du côté du goût, comme tu viens de dire, du style, oui, ça ne va pas non plus.
Non.
Et c'est vrai que la voie à trouver aussi entre les deux. Mais je ne crois pas, je ne suis pas certain qu'il y ait un point fixe a priori.
Mais même élaboration de savoir, est-ce que l'historisation de son analyse est une élaboration de savoir?
Je remplaçons ce que j'ai dit par historisation.
Hein? Ah, bah oui, mais attends. Mais
remplaçons, je parle vraiment de l'oscillation entre ce qui est des énoncés. Les énoncés et le style. Oui. Les deux sont co-présents, et si on unilatéralise, ça ne va pas. Et trouver le curseur se promène entre les deux.
Oui, bon, alors ça va dépendre alors du style du cartel. La nomination dépendra du style du cartel, qui est lui-même contingent.
C'est ça. Oui.
Donc c'est un peu. Il y a une contingence des nominations prononcées de toute façon. Hein. Ça me paraît certain. Ah oui, mais même dans une école, si vous voulez, ça se perçoit qu'il y a une incidence des styles de chacun, hein, et qu'il y a des. Comment dirais-je? Il y a des. Il y a des affinités entre styles. Alors on peut dire que c'est des affinités, que c'est en réduction ce qui se passe dans l'amour. On reconnaît au style quelque chose du rapport à l'inconscient. Oui, pourquoi pas. Mais le style ne nous sauve pas, parce que le style, il est un des facteurs des luttes intestines, des groupes. C'est un nom du symptôme, le style. Le style, c'est un index du symptôme. Et donc, je suis bien d'accord que les sujets ont des styles différents, que dans la passe, c'est des styles différents, mais comme les cartels sont faits avec des humains qui ont aussi leur style, quand il y a unanimité, on se dit, ah bon, ils ont tous le même. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est loin d'être toujours le cas. Et donc, on est bien obligé de tempérer tous les facteurs. Hein. Mais je suis bien d'accord avec Jean-Pierre que ça compte aussi, oui.
Un petit mot. En dehors, donc, justement, de cette question d'un savoir élaboré et puis du style, le témoignage, il permet quand même de saisir qu'entre le début de l'analyse et là, ce qu'on peut supposer comme étant sa fin, il y a eu des effets. Des effets dans la vie du patient dont il vient témoigner. Et c'est quand même ça qui, je pense, est le plus à même d'emporter la décision du cartel de la passe. C'est-à-dire que est-ce que on déduit en fonction des conséquences qui sont celles qu'on peut, dont le passant vient témoigner sur son existence, sur ce qu'il était au début et ce qu'il est après? Est-ce que c'est pas ça qui est quand même l'essentiel enfin l'axe essentiel sur lequel on va se prononcer? Une autre remarque pour avoir été dans les cartels de la pince, c'est que il me semble qu'il y a quand même une idée, problème de micro, il y a une idéalisation de la pince, parce que on a des critères extrêmement élevés. Enfin, on se met des critères en tête pour nommer, enfin pour trouver ce qui vient de faire une nomination, dont les membres du cartel eux-mêmes ne peuvent pas se prévaloir.
Mais c'est ça l'essentiel, oui.
C'est-à-dire que ceux-mêmes qui sont là pour juger du témoignage ne rentreraient pas dans les cases, enfin dans les critères que eux-mêmes définissent pour l'autre. Enfin, ça c'est quand même quelque chose d'assez manifeste.
Ça, c'est une chose que Lacan, au moment de la dissolution, avait dite. Auquel des membres de mon jury pourrais-je je ne sais plus comment il avait formulé. Enfin, ça voulait dire auquel des membres de mon jury Qui aurait pu être nommé à eux s'il s'était présenté. Donc, que ça a été déjà évoqué, ça indique qu'il y a un vrai problème, hein, que c'est pas un problème de personne, c'est vraiment un problème d'école, alors là pour le coup. Il y a un on d'école, et le on, il a un gros problème avec notre on ou notre nous actuel, a un gros problème de nécessité de prendre la réflexion sur qu'est-ce qu'on attend des témoignages de passe, comment on répond aux passants qui viennent témoigner de ce changement qui est arrivé grâce à l'analyse dans leur vie.
Si Lacan se présentait, on nommerait
pas.
Sans doute, oui.
Sans doute que non.
Ah oui, ah oui, oui, oui. Quand Lacan dit à la fin de ce texte où il dit je ne suis pas. Où il dit en tant je suis poème et poème que je signe, etc. Et c'est ce que je dirais si je devais faire la passe maintenant. J'ai tout de suite pensé qu'il ne serait pas nommé. Ça c'est sûr.
Il dit jamais qu'il n'est pas long. Même si on prend les choses du côté des effets de l'analyse, effectivement, dans des tas de témoignages, on retrouve des effets allégués de l'analyse. Là où il apparaît, parfois on est sensible et il y a quelque chose, un effet de vérité, on entend quelque chose dans la manière dont c'est dit, le style, le ton, etc. Et d'autres fois, on considère vraiment que c'est quelque chose d'assez livresque, assez plaqué, etc. Je veux dire, c'est au niveau du ton, du style, qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est-à-dire que l'effet de vérité n'est pas acquis à ce niveau-là. Hein, donc, c'est pas totalement ou l'un ou l'autre, je veux dire. C'est ça l'idée, quand même.
Ce serait le passant qui s'historiserait dans la langue de l'autre. Avec la langue des livres.
Dans la langue des livres, hein, de ce qu'on attend de lui.
Ça existe d'autant plus, mais là, c'est vraiment de la casuistique ou pragmatique, ça existe d'autant plus que les analyses durent assez longtemps, très longtemps, le changement dans la vie de beaucoup d'analysants, c'est de se dévouer nuit et jour à la psychanalyse. Donc finalement, cet effet entre guillemets thérapeutique, je mets des guillemets, c'est cet effet entre guillemets thérapeutique est assez répandu. C'est quand même assez fréquent dans les témoignages de passe.
Les témoignages. Moi, je les attends.
Écoutez, je crois que on va terminer sur tous ces points d'interrogation et programmatiques qui promettent un bon travail pour l'année prochaine.
Il n'a pas encore été annoncé.
Le sujet de l'année prochaine va être annoncé dès que le programme sera fini d'être constitué. Thank you.